France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il est libre, Christian Pierre, sur son nouveau disque Cello 360 qui paraît demain. Christian Pierre Lamarca est en plein saut dans les nuages, sur la pochette, archet à la main, basket au pied. Libre de nous proposer un programme pour violoncelle seul qui commence avec Monsieur de Sainte-Colombe et s'achève avec les Beatles. C'est de la musique électro qui joue seul, mais parfois avec plusieurs enregistrements de son violoncelle, plusieurs voix qui se mêlent et qui donnent une polyphonie un peu comme un consort. De viol, Christian Pierre Lamarca, bonjour.
Bonjour.
Après des disques à thème, des sonates, de la musique de chambre, voici donc dans ce projet un peu hors norme. Est-ce que d'abord vous appréhendez le regard des autres et du milieu musical en présentant cet album ?
Pas du tout. En fait, je suis vraiment dans une recherche personnelle et c'est un projet qui m'est très cher. Et à vrai dire, c'est un projet de violoncelle seul d'abord. Je pense qu'il faut le voir comme cela. Et c'est vraiment une forme de regard, si vous voulez, entre la musique baroque, des pièces qui sont écrites pour la viole de gamme, et la musique moderne et les contemporains. Donc en fait, pour moi, c'est un grand disque de répertoire dans le sens où il y a des pièces essentielles du répertoire de mon instrument. Et évidemment, après, parce que je suis quelqu'un de curieux et parce que j'ai voulu extrapoler d'une certaine manière. Je repousse un tout petit peu les limites de l'instrument. C'est un peu ça ma volonté. Mais d'abord, c'est vrai que c'est un grand, d'une certaine manière, j'ai pas envie de dire grand disque, mais grand disque de répertoire, je veux dire, dans le sens où j'aborde des pièces qui sont vraiment très importantes dans mon parcours de violoncelliste, tout simplement, en fait.
On va en écouter jusqu'à 9h. Je parlais de liberté. Jouer seul au violoncelle, c'est une plus grande liberté. C'est aussi une mise à nu.
Oui, c'est un des exercices que je trouve le plus difficile dans mon métier, c'est-à-dire vraiment jouer seul. Les concerts où je dois faire un récital de violoncelle seul, c'est toujours un challenge. Je pense que pour tous les instrumentistes à cordes, c'est souvent le cas, parce que on n'a pas la pédale, nous, comme les pianistes. Du coup, on doit créer ce que j'appelle, on doit créer sa propre résonance, c'est surtout ça. Et ça, c'est un vrai challenge. Et puis, on n'a pas vraiment de soutien, donc toute l'harmonie est conçue autour de quatre cordes. Donc, c'est dans ce sens-là, effectivement, c'est une mise à nu et c'est une recherche de plusieurs sonorités. Je crois que il faut le dire parce que j'ai vraiment essayé dans ce disque de créer un lien, si vous voulez, entre les différentes périodes de la construction de ce projet et dans
comme
le son.
Miroir.
Absolument, c'est une mise en miroir, mais une mise en miroir dans le son surtout, et avec une approche très spécifique en fonction des pièces et du style.
Vous parliez de résonance, on va parler de l'endroit où vous avez enregistré, mais on va d'abord écouter un premier extrait de Cello 360 qui paraît demain chez Naïve, c'est donc en avant-première ce matin sur France Musique. Ce n'est pas purement chronologique, mais ça commence quand même avec des pièces écrites pour viol, Monsieur de Sainte-Colombe, Marin Marais, Delande, et puis on passe à Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
Jean-Philippe Rameau, Les Sauvages, écrit de la suite dont il tirera ensuite son opéra ballet Les Indes Galantes. Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, extrait de ce disque Cello 360 qui paraît chez Naïve. Mais Christian-Pierre, combien y a-t-il de Christian-Pierre Lamarca ici?
C'est une bonne question, je me dédouble et je joue avec moi-même. Dans cette pièce-là précisément, nous étions quatre. Donc vous voyez, il se passe beaucoup de choses dans ma tête, hein, Phil, moi.
Il faut quand même expliquer. Enfin, on comprend, hein, je pense, assez facilement. C'est ce qu'on appelle, alors le mot est très laid, du re-recording, c'est-à-dire que vous jouez plusieurs fois. Ça se passe comment d'ailleurs? On commence toujours par la basse, ensuite on met un casque et on entend la première voix, ensuite on entend la deuxième, la troisième.
C'est ça, en fait, ça c'est un peu le procédé de base, mais après, par extrapolation et dans la recherche, parfois on procède autrement. C'est un exercice qui était tout nouveau pour moi, parce que je l'avais quasiment jamais fait, si ce n'est pendant la période du confinement où je m'amusais chez moi. Mais je trouve que ça donne une dimension au violoncelle. Si vous voulez, la base de ce projet, c'est d'abord effectivement une mise en miroir entre des pièces totalement originales et emblématiques du répertoire pour l'instrument, c'est-à-dire par exemple la Folia, Sainte-Colombe, ou alors des pièces comme les trois strophes d'Henri Dutilleux, la sonate de Ligeti, la pièce magistrale de Thierry Esquèche, Cantus. Et en fait, dans ma recherche, j'ai toujours été fasciné par le consort de viol depuis très longtemps, et j'ai commencé à expérimenter dans ce sens-là en me disant mais en fait, ce serait génial si avec un seul violoncelle, je pouvais devenir d'abord polyphonique en créant, si vous voulez, une forme de violoncelle augmentée, et puis même symphonique parfois, en repoussant mes limites, mais sans rentrer trop dans un système qui serait automatisé et un peu, pas très naturel. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment à la recherche du naturel, du son. Donc ça a été un exercice très difficile parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose d'artificiel, et je voulais aussi que les gens puissent se poser la question à un moment donné en se disant mais ah, en fait, il y a plusieurs voix, comment ça se passe?
Mais il y a des moments où on se pose la question. Et moi, c'est ça qui est très... En plus, je crois que c'est pas écrit dans le disque, donc il y a un flou.
En même temps, si vous voulez, c'est très intéressant pour moi qu'on puisse se poser ces questions, parce que justement, il y a une vraie évolution dans ce projet, et j'aime ce côté à la fois singulier du violoncelle et en même temps multiple.
C'est-à-dire cette idée-là de plusieurs voix qui se mêlent, vous l'avez vraiment eu au moment du confinement, ou c'était bien avant que vous aviez ça en tête?
J'avais déjà eu ce rêve un peu secret, je dois l'avouer, depuis de nombreuses années, parce que je m'étais toujours dit que ça pouvait être une expérience sans réellement... peut-être que c'était pas vraiment le moment. Après, il y a eu cette période qui était complètement dingue. On s'est tous retrouvés comme ça à chercher les choses. Ça a peut-être renforcé ce désir-là. Et puis je trouvais que c'était le bon moment, avec un programme de violoncelle seul, justement d'avoir cette vision plurielle de l'instrument, et c'est de repousser ses limites, les limites de l'instrument, et puis mes propres limites aussi, parce que quand on arrive à un développement et à un stade d'apprentissage de l'instrument, on a aussi envie à un moment donné, dans le plaisir évidemment toujours, de repousser ses propres limites.
Alors il y a quelques... Tube, on vient d'en entendre un, Les Sauvages, la chanson de Solveig de Grieg également, La mort de Didon, Smile de Chaplin et d'autres. Il n'y a pas que ça, loin de là, dans Cello 360, il y a beaucoup de musique contemporaine, d'aujourd'hui, Dutilleux, Ligeti, Esquèche sont là aussi. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là d'amener à cette musique?
Merci de les voir comme ceci, parce que je pense que c'est très important de nos jours, quand on est un artiste contemporain, j'ai toujours l'impression qu'il faut tendre la main. D'une certaine manière, c'est aussi notre mission, c'est-à-dire d'aller chercher des personnes qui n'iraient pas forcément écouter le répertoire moderne en se disant « Oh là là, c'est pas pour moi », mais justement de leur dire « Regardez, vous connaissez ça, vous allez peut-être découvrir ceci dans le disque ». Et je trouve que ça fait aussi partie un peu de notre mission en tant que musicien d'aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce procédé-là. Et puis, de toute manière, je vais vous dire, si ce sont des tubes, comme vous dites, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce sont quand même des pièces absolument abouties.
Tout péjoratif.
Non, mais je dis ça dans le sens où, moi, ce sont des pièces de cœur aussi, finalement. Si je les ai choisies, c'est qu'elles me font du bien. Je crois qu'elles nous font du bien. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est très intéressant j'ai aucune prétention de guider les gens, mais en tout cas, ça me fait vraiment du bien de leur montrer le chemin parfois sur certaines pièces qu'ils découvriraient.
Il y a notamment cette pièce de Thierry Esquèche, vous la défendez depuis longtemps, vous en êtes l'ambassadeur. Pourquoi elle est si importante pour vous?
Parce qu'elle représente beaucoup, déjà à mes yeux, dans la relation que j'ai avec Thierry Esquèche, qui est un ami. Et au-delà de ça, c'est une pièce qui est absolument aboutie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle compile une extrême difficulté, tous les possibles de l'instrument, que ce soit des harmoniques, tous les modes de jeu. Et puis musicalement, c'est extrêmement, je trouve ça exceptionnel dans la construction. C'est une pièce qui est à la fois dense et à la fois longue. Et en même temps, il se passe un million de choses, j'ai l'impression. Et c'est sur la forme de la grande passacaille d'orgue, puisque lui-même est un grand organiste. Et je trouve que finalement, c'est presque plus un violoncelle qu'on entend, c'est un orgue. C'est vraiment entendu comme un orchestre symphonique, un orgue, quelque chose de totalement polyphonique. Et encore une fois, c'est un moyen de repousser les limites.
Un million de choses dans ce cantus de Thierry Esquèche. On en a entendu quelques milliers puisque c'était le tout début. Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, extrait de ce disque Cello 360 qui paraît demain chez Naïve. C'est un disque que vous avez enregistré cet été. Vous nous en aviez parlé d'ailleurs au Festival France Musique où vous avez participé. Vous étiez en plein enregistrement après le confinement. Donc, vous l'avez vécu comment? Comme une libération, ce disque-là?
De toute manière, un disque d'une certaine manière, c'est toujours un accouchement en soi, parce que c'est toujours un bébé qu'on porte pendant longtemps et on est toujours content de le voir naître, un peu comme aujourd'hui. D'ailleurs, je dois dire, puisque c'est le début de cette aventure. Oui, c'est une libération, mais à la fois, c'est l'accomplissement d'une recherche, surtout d'un parcours, et surtout ce qui est. C'est sûr que la période a renforcé le fait d'être tout à fait dans l'isolement avant l'enregistrement, un peu malgré nous, mais je suis pas du tout le seul dans ce cas-là, on a tous été impactés. Mais je pense que dans cette période-là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de positifs pour nous qui ressort. Moi, j'ai envie de penser comme ça, et j'ai envie de me dire que justement, ces périodes d'introspection, je pense évidemment à toutes les personnes qui souffrent de ne pas... J'ai vu des choses absolument terribles ces derniers temps, des gens qui sont vraiment dans une misère et une souffrance par le simple fait de ne plus pouvoir exercer.
Nous, y compris des musiciens. Hein.
Des musiciens, mais surtout toute corporation, tout métier confondu. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment... Il y a, il y a, y a quelque chose d'extrêmement fort. Enfin, moi, ça me touche beaucoup de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment qui perdent tout du jour au lendemain. Donc, nous, on a cette chance quelque part d'avoir toujours cette forme de recherche intérieure, même quand on est isolé, on est quand même toujours dans un processus créatif et quand même, on a la chance de pouvoir d'avoir ce contact avec l'instrument. Et je trouve que c'est une grande chance aussi. Et c'est tout le positif de cette période, c'est que ça nous permet cette introspection, ça nous permet cette qu'on a obligatoirement, mais si vous voulez, là, elle est renforcée.
Vous, ça vous a ébranlé dans certaines certitudes de votre métier ou vous pensez que vous allez ces prochains mois, ces prochaines années, peut-être appréhender votre vie de musicien différemment?
Moi, je crois qu'on va être obligé de toute manière de repenser un peu les choses par rapport à la situation actuelle. Je pense que les choses vont pas reprendre comme ça d'un battement de cils. Ce serait trop beau. Mais on va devoir s'adapter. Je crois qu'on l'a tous déjà extrêmement montré et bien fait. Je crois en la nature humaine pour pouvoir surmonter cette période. Il va falloir qu'on soit très attentif justement à des questions, au fait de respecter notre planète, qui à mon avis est la cause la plus essentielle dans ce débat. Et mais mis à part ça, je pense que on va être très heureux de retrouver les gens. Et ça, j'ai hâte. Vous avez pas idée à quel point.
La planète, d'ailleurs, vous êtes investi avec des concerts pour la planète. Celui prévu il y a quelques semaines a été annulé, mais reporté pour dans quelques mois. Christian-Pierre Lamarca joue au violoncelle et parfois, en même temps qu'il joue, il chante. Ça groove là, Christian-Pierre Lamarca.
Ah bah là, c'est de la guitare électrique. Hein. On est dans Jimi Hendrix presque.
Lamentation de Giovanni Solima, c'est quoi cette pièce?
Ah, c'est une pièce qui est inspirée du folklore méditerranéen, puisque Giovanni Solima est un violoncelliste, compositeur vivant, pour qui j'ai une grande admiration, parce que j'aime bien, parce qu'il repousse un peu aussi les limites de l'instrument. Il va chercher des idées qui lui sont propres et j'aimais bien ce côté complètement transversal dans cette musique aussi folklorique, parce qu'il y a une grande partie de folklore qui est inspirée, qui a été insérée dans ce disque. Par exemple, il y a les pièces de Casals, le chant des oiseaux, ou alors il y a la chanson de Solveig, qui est aussi vraiment une chanson populaire. Et puis il y a cette pièce qui raconte un pays aussi et qui est d'origine sicilienne, un peu comme moi. Ça me touche notamment. Puis j'aime bien le côté, c'est une pièce de vitamine C, quoi. C'est la pièce qu'on a envie d'entendre pour se donner le sourire et pour voilà, pour se dynamiser. Il y a un côté très guitare électrique, une virtuosité époustouflante, je trouve. Et voilà, j'adore la jouer. Je trouve qu'elle est toujours aussi groovy, comme vous dites.
Lamentation de Giovanni Solima, c'est sur le disque Cello 360. Il sort demain. Il est diffusé en avant-première mondiale ce matin. Wow. Sur France Musique. Christian-Pierre Lamarca est notre invité. Je voudrais qu'on dise un mot de cette belle acoustique qu'on a entendue. Vous n'avez pas joué n'importe où, dans une église, certes, mais c'est le prieuré de Pommiers où chaque année vous organisez avec votre frère, l'altiste Adrien Lamarca, votre festival.
C'était... Tout à fait. Ben c'était un peu l'occasion qui a fait le larron, si je puis dire. C'est-à-dire que malheureusement, on a dû annuler notre festival en 2020, cette année, pour les raisons que vous connaissez. Et dans l'intervalle, ça correspondait ni plus ni moins au moment où je devais enregistrer mon album. Et du coup, je me suis dit, mais quoi de mieux que cette acoustique que je trouve depuis des années et que je connais, évidemment, puisque je la fréquente chaque été. Quoi de mieux que cette introspection pour ce répertoire, cette acoustique aussi, parce qu'il y avait ce côté un peu, je retournais aux sources dans un lieu qui m'était familier, qui m'était cher et dont j'adore l'acoustique. Et puis il y a une autre séquence aussi qui a été faite à Paris, à la scène musicale, dans les studios Rifix. Donc j'ai vraiment cherché, si vous voulez, à coller à chaque esthétique et à chaque pièce. Et pour moi, toute la partie baroque et moderne, elle devait se faire dans un endroit qui avait une forme de dimension artistique, qui avait une atmosphère particulière. Parce que pour moi, c'est très atmosphérique. Ce sont des pièces qui relèvent d'une... Voilà, il faut être dans le sujet, il faut se sentir concerné et happé par la prise de son. Et donc on a beaucoup travaillé dans ce sens-là avec mes ingénieurs du son que j'adore, Ken Yoshida et Baptiste Chouquet pour la deuxième partie. Et donc il y a une deuxième partie qui a été faite en studio, vraiment plus traitée pop pour le re-re notamment, pour la partie Chaplin,
The Beatles,
le re-recording. Voilà.
Re-recording.
Et donc c'était passionnant parce que moi j'ai jamais eu cette occasion-là. J'ai toujours travaillé mes disques de façon un peu plus classique. Et là, pour une fois, j'ai abordé une façon d'entrevoir l'instrument à l'enregistrement différemment.
Cello 360, le disque de Christian-Pierre Lamarca qui sort demain chez Naïve et qui s'achève justement par ses pièces enregistrées à Boulogne à la scène musicale. Il y a Chaplin, les temps modernes, Smile, il y a de la musique électro, mais on n'a pas le temps d'en parler.
Ah, dommage.
Et ben, on en parlera plus tard, on écoutera plus tard. Et il y a également ceci. Merci Christian-Pierre.
Merci beaucoup de votre accueil, toujours chaleureux et souriant.
Connu votre réponse sur francemusique.fr. Non, je plaisante, c'était Yesterday, John Lennon, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle. Rendez-vous aussi pour le concert le 5 février prochain à Paris, salle Cortot, et pour un concert en streaming sur francetv.fr le 21 décembre, concert de Noël de Cello 360 à la scène musicale. Merci Christian-Pierre.
Merci beaucoup.
Demain, notre invité sera Alexandre Astier, l'humoriste, le comédien, mais aussi le compositeur.
À réécouter sur francemusique.fr.